Merci à toutes et tous d'être venus. Donc, on vient présenter un ouvrage de statut un peu particulier. Alors, il est petit. Pour des universitaires, c'est toujours compliqué de faire un ouvrage de taille restreinte, de taille réduite. Qui plus est, nous étions un très grand nombre à signer cet ouvrage, à avoir travaillé cet ouvrage. Nous ne sommes que deux ce soir, nous devions être quatre. Mais derrière les deux et les quatre, il y a plus de 60 signataires de ce petit opus, de ce manifeste. 60 signataires, donc la volonté précisément de montrer que les sciences sociales, la sociologie, l'histoire, la science politique peuvent avoir un sens pour tout un chacun, c'est-à-dire peuvent permettre de comprendre un certain nombre de choses que nous vivons au quotidien. Alors, disons que ceci, nous essayons de le montrer dans des travaux de nature universitaire, mais la difficulté, elle est très simple, c'est que les travaux de nature universitaire ne sont lus que par des universitaires. Et encore, sont de moins en moins lus par des universitaires. Parce que précisément, ce que je vous propose de discuter, c'est ce qui malheureusement frappe les sciences sociales, sciences humaines, mais toute l'édition, c'est une profonde crise liée à des facteurs qu'on va identifier, mais qui sont liés notamment à la multiplication des titres, à l'inflation donc des titres, et également au fait qu'il n'y a plus de différenciation, je dirais, des segments d'édition. Et ce manifeste, c'est aussi une réflexion sur les conditions de l'édition en sciences humaines. Alors, nous avons voulu nous adresser au plus grand nombre. Et pour nous adresser au plus grand nombre, donc on a fait un ouvrage de taille restreinte, et disons qu'on a évité deux habitudes, je dirais deux tropismes des universitaires, les notes en bas de page, ou les notes en fin de chapitre, et l'abondante bibliographie. Ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident parce que dans cet ouvrage, on fait référence à toute une série de travaux empiriques en sociologie et en histoire, c'est-à-dire d'enquêtes qui ont été réalisées, puisque c'est là notre spécificité, peut-être par rapport à des journalistes. Nous avons des enquêtes longues, nous observons, nous faisons des entretiens, nous passons des questionnaires. À partir de là, nous rédigeons des travaux sociologiques, historiques, il y a des archives aussi, bien sûr. Et habituellement, donc, bien sûr, nous avons l'habitude de mettre des notes en bas de page pour prouver, pour démontrer, etc. Là, on s'est dit que pour essayer de montrer à quoi pouvaient servir les sciences sociales, il fallait précisément écrire d'une autre façon, écrire sans notes, écrire sans référence d'autorité, c'est-à-dire sans évoquer d'auteur. C'est-à-dire qu'on a un ou deux quand même auteurs cités, mais on l'a évité au maximum. Avec cette idée simple, essayer de montrer ce que le sociologue, le politiste et l'historien, séparément et aussi confondu, parce qu'on est parfois à l'intersection de ces disciplines, peuvent dire d'un certain nombre de phénomènes sociaux. Alors, par exemple, sur des inégalités de genre, par exemple, sur les rapports à la politique, sur ce que l'on dit de la dépolitisation, par exemple aussi sur la question aussi de l'accès au savoir et sur la question de l'édition. Alors, peut-être, avant de laisser la parole à Magali, je voudrais revenir sur justement sa question d'édition parce qu'elle me semble tout à fait centrale. Alors, je ne sais si vous en avez une expérience dans les milieux où vous évoluez, mais il y a, les libraires qui sont présentes pourraient le confirmer, je pense, une inflation des titres, une inflation, mais sans, quand je dis inflation, vous savez, des inflations de plusieurs niveaux, mais on dit inflation économiquement quand il y a 3%, 4% de hausse des prix, mais là, on a eu, c'est une inflation à l'Argentine, hein, c'est-à-dire quand on était à 700% de hausse des prix annuels. On ne sait pas, on ne peut pas identifier des ouvrages tellement il s'en produit. Et peut-être plus encore en sciences humaines et sciences sociales qu'en littérature. En littérature, de cette manière, c'est peut-être plus régulé, mais en sciences humaines et sciences sociales, c'est véritablement une multiplication des titres. Et là, dans ces titres, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, il y a des choses qui sont, je dirais, peut-être moins intéressantes. Comment s'explique cette inflation des titres? Alors, il y a un élément majeur d'explication, c'est les procédures d'évaluation qui se sont mises en place dans l'enseignement et la recherche et qui poussent à la multiplication des publications, à l'édition systématique de tout ce qui est écrit. Alors, très simplement, quand je dis l'évaluation qui pousse à ça, c'est il y a des agences d'évaluation qui vont considérer, par exemple, qu'un travail sociologique ou historique a plus de valeur s'il prend la forme d'un ouvrage que s'il est diffusé d'une autre manière. Or, d'autres manières de diffuser, on en a beaucoup à l'ère d'Internet. Mais non, on va considérer qu'un ouvrage a plus de valeur ou une revue, mais un ouvrage en particulier. Et par exemple, dans la carrière des universitaires, pour que quelqu'un qui a fait une thèse puisse avoir un poste, il faut qu'il fasse une thèse. Mais sa thèse aura beaucoup plus de valeur si elle est publiée dans un ouvrage. Donc, on arrive à des aberrations. C'est-à-dire que, en fait, les thèses ne vont pas être lues, elles ne vont pas être discutées. On va simplement regarder si elles ont été éditées. Et si elles ont été éditées, ça sera un point positif. Et donc, dans les aberrations, c'est une sorte de déstructuration aussi du marché de l'édition. Vous savez quel est le premier ou deuxième éditeur français? L'Harmattan. L'Harmattan, c'est un éditeur qui fait sa manière un peu du compte d'auteur. Il publie, je crois, 1700 ou 1800 titres par an, que vous ne verrez pas pour la plupart du temps sur les tables des libraires, mais que vous voyez quand même partiellement, qui encombre les tables. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de logique véritablement d'édition, d'éditeur, où un éditeur va se dire que ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'il va porter, qu'il va diffuser. Et voilà, donc c'est tout à fait dommageable. Dommageable pour l'édition, pour la librairie, pour nous universitaires aussi, parce que tout se tient, les étudiants en lisent moins, ils lisent des readers, ils lisent moins des ouvrages, ils ont aussi du mal à se repérer. On ne se lit pas, on ne débat pas entre nous. Alors, cette maladie n'est pas simplement française. On a l'habitude toujours de considérer qu'il y a des mots français et les déplorer. En fait, il y a un tout petit ouvrage que je vous conseille de Lindsay Waters, qui est en fait le directeur des humanités dans la célèbre université de Harvard, directeur des éditions dans le domaine des humanités, donc aux universités d'Harvard, et qui, dans L'éclipse du savoir, paru chez Alia, montre aux États-Unis, donc avant la France, parce que nous, on copie toujours un petit peu avec le retard, 10-20 ans, qu'on a mis en place des procédures d'évaluation telles qu'on les connaît maintenant en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié le nombre des titres produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de moins en moins de lecteurs, de moins en moins de tirages, de moins en moins de lecteurs et de moins en moins de débats. Parce que c'est ça, en fait, aussi la conséquence. Il n'y a plus de débat. On peut écrire pratiquement n'importe quoi, comme ce n'est pas lu, ce n'est pas débattu. Et pas discuter. Vous savez, il y a un marronnier journalistique fréquent de dire et de déplorer qu'il n'y a plus de grands intellectuels par rapport aux années 70, aux années 80. Mais c'est aussi une conséquence indirecte, finalement, de cette déstructuration du marché de l'édition et de la pensée scientifique. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, s'il n'y a plus d'intellectuels et s'il n'y a plus de débats, c'est aussi précisément parce que il n'y a plus de choses identifiables, il n'y a plus de lieu de débat et de support de débat. Donc, en fait, cet ouvrage, il veut aussi être à l'origine d'une restructuration. C'est ambitieux, mais il faut vivre d'ambition, d'une restructuration du marché d'édition qui consisterait à se dire que d'un côté, il y a l'édition scientifique. Allez, c'est, je dirais, des choses qui vont être échangées entre chercheurs, universitaires. Ça n'a pas forcément besoin de toujours arriver dans une librairie. Ça doit être lu, ça doit être évalué pour ce que c'est par rapport aux résultats que ça amène. Et après, une partie des travaux scientifiques doivent être diffusés, mais aussi diffusés peut-être sous des formes plus accessibles afin de toucher le maximum de personnes, afin aussi, alors je vais le dire un peu autrement, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes et que je ne les heurterai pas, mais peut-être qu'ils ne seraient pas heurtés d'ailleurs par ce propos, afin d'éliminer cette médiation systématique que font les journalistes par rapport à des travaux scientifiques. Si vous voulez, il y a des formes de déformation qui sont liées à l'exercice du travail journalistique, hein, mais qui font que, par exemple, nous ne nous adressons pas au public, nous devons passer par des journalistes qui vont faire un compte-rendu d'un ouvrage qu'on a écrit, d'un travail que l'on en a réalisé, et bien sûr, finalement, personne n'est content de cette manière. Les journalistes trouvent toujours qu'on rend les choses complexes alors qu'elles pourraient être simples, et nous, on trouve qu'on ne s'y retrouve pas. On ne se retrouve pas dans ce qu'ils ont écrit. Pas toujours, en tout cas. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir une relation directe, un peu comme, finalement, de plus en plus se diffuse l'idée qu'entre producteurs et consommateurs de biens alimentaires, par exemple, il faut des circuits directs. Eh bien, pour aussi la pensée, pour les écrits, il faut des circuits directs afin de permettre le débat. Et voilà pourquoi on écrit sans notes, pourquoi on écrit, on essaie de restituer des travaux scientifiques, de les synthétiser, afin que le maximum de personnes puissent être intéressées et puissent après aller vers des travaux plus étoffés en fonction des désirs et des souhaits et des intérêts de chacun. J'ai déjà été très long. Je passe la parole à Magali. Pardon.
Oui, bonsoir. Merci aussi d'être ici. Moi, je serai brève et j'insisterai dans cet ouvrage plutôt sur l'aspect de réponse à des critiques qui sont souvent adressées, alors pas seulement aux chercheurs, mais notamment aux chercheurs, et notamment et surtout aux chercheurs en sciences sociales, d'être inutiles. Vous êtes des fonctionnaires, vous coûtez trop cher, ce que vous faites ne sert à rien, la recherche ne sert à rien. Pourquoi aller faire de l'histoire ancienne? Pourquoi aller faire de l'épigraphie romaine? On s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de rentabilité à tous vos travaux, ça ne sert à rien. Et en fait, cet ouvrage aussi, par cet effort de synthèse et par l'effort de langage aussi qui est fait, hein, pour ne pas employer un langage qui serait trop coupé du langage ordinaire, de restituer dans des mots simples, finalement, des réalités complexes. Cet ouvrage, il montre aussi que ces travaux de sciences sociales, enfin que les recherches en sciences sociales, elles ont une utilité, et que leur utilité, elle vient aussi du fait que les chercheurs sont préservés d'intérêts économiques et donc qui a quand même un sens à ce qui est encore une recherche publique, y compris en sciences humaines et sociales. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Moi, celui que je connais le mieux, c'est celui des inégalités de genre, qui sont au cœur de certaines polémiques en ce moment. La théorie du gender est vivement contestée, notamment, elle a été à l'occasion donc de l'opposition au mariage pour tous. Elle a fait aussi l'objet de débats et de contestations quand il s'est agi d'introduire cette notion, hein, que la différence entre les hommes et les femmes, elle n'est pas d'abord et avant tout naturelle. Elle est d'abord une question de culture. Le sens qu'on va donner au fait, pour les petits garçons, d'avoir un pénis, aux petites filles, d'avoir un vagin... La signification que la société va donner à cette différence, elle n'a rien de naturel. C'est pas parce qu'on est une petite fille qu'on va devoir faire le ménage, qu'on va devoir prendre en charge les petits frères et sœurs et se préparer à un rôle de mère, être dévouée, gentille et docile. Et c'est pas parce qu'on est un petit garçon qu'on est naturellement turbulent et agressif. C'est des choses aussi simples que ça. C'est utile de rappeler que les sciences sociales, elles ont été là à un moment donné pour essayer de comprendre ce qui se passait, de comprendre comment ces inégalités, elles se construisent, comment elles ont évolué dans le temps aussi, dans l'espace. C'est l'intérêt de l'histoire, de la géographie. Comment aussi elles sont chargées donc, de relations de pouvoir. Donc voilà, il y a un petit développement sur la question du genre et des inégalités hommes-femmes. Il y a aussi un développement sur la manière dont souvent dans les médias, voire certains politologues médiatiques vont revenir sur cette question de la montée du Front National. Et pour essayer ici, donc il y a un développement sur cette analyse un peu plus en profondeur de ce que veut dire ce vote Front National, ce que veut dire sa montée, les inquiétudes qu'il traduit aussi dans une certaine fraction de la classe ouvrière. Tous les ouvriers ne sont pas racistes, tous les ouvriers ne votent pas Front National. Les raccourcis qui sont faits entre le transfert d'un vote ouvrier en faveur du Parti communiste à un vote massif en faveur du Front National, ils sont faux. Et donc, les sciences sociales, elles s'attachent aussi à montrer qu'en fait, les choses, elles sont beaucoup plus complexes que cela, que le cœur de l'électorat Front National n'est pas nécessairement un électorat ouvrier, qu'il y a d'autres catégories qui votent pour ce parti-là et qui sont des catégories sociales différentes. On peut penser, par exemple, à la catégorie des artisans. On peut aussi penser à certaines catégories de professions dites intellectuelles ou de cadres, mais qui ne sont jamais stigmatisées, qui ne sont jamais montrées du doigt comme étant potentiellement racistes ou potentiellement ayant des préférences pour cette formation politique-là. On revient aussi dans ce travail sur la question de la jeunesse, des problèmes dits d'insécurité en banlieue pour essayer de montrer qu'en fait, la manière dont certaines révoltes urbaines se sont exprimées et dont elles ont été traduites comme des problèmes d'insécurité de banlieue, des problèmes d'intégration dans le monde des journalistes, en fait, c'est une traduction très, très imparfaite de la réalité sociale et des faits. Et donc, voilà, ce manifeste, il est là aussi pour dire que ces travaux-là, ils peuvent être accessibles et ils peuvent nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit, à ne plus avoir peur aussi de certains phénomènes. Et ça nous donne aussi des outils donc, pour penser et pour agir, pour ne pas non plus être enfermé dans un sentiment d'impuissance, d'incompréhension et se sentir finalement complètement dépossédé de toute capacité d'action. Et il y a un lien qui est fait aussi entre ce savoir-là, qui s'appuie sur des données empiriques, qui s'appuie sur des enquêtes, d'observation participante. Quand un sociologue va aller se faire embaucher comme main-d'œuvre non déclarée donc aux États-Unis pour comprendre le sort des travailleurs mexicains sans papier, quand une sociologue va aller embrasser la profession d'aide à domicile, faire les toilettes aux personnes âgées, accomplir toutes ces tâches-là pour comprendre ce qu'est ce métier, comprendre ce qui se joue dans la relation entre patient et aide à domicile, comprendre aussi comment cette profession s'organise, où est-ce qu'on pose les limites du soin, où est-ce qu'on pose les limites du dévouement, ces tensions-là, pourquoi ce sont des femmes qui occupent ces métiers-là. Voilà, ce sont des vraies enquêtes de terrain qui prennent du temps, mais où il y a une profondeur une restitution de l'expérience qui n'est pas superficielle, qui n'est pas simpliste, où on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, et c'est un petit peu le sens aussi de ce manifeste, c'est de rendre accessible et de donner envie de lire, et là on rejoint la question de l'édition, de lire ces travaux qui ne doivent pas servir uniquement à un prétexte d'évaluation et d'avancement de carrière. Les travaux de sciences sociales, c'est aussi, voilà, c'est des instruments pour nous tous. Ça fait partie aussi de la formation des citoyens pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.
En fait, oui, c'est le sentiment aussi que tout se tient, c'est-à-dire l'école, l'université, l'édition, la librairie, la recherche. et que désormais il y a effectivement une crise, enfin je veux dire de ce qu'on appelle la crise du lectorat. Vous avez vu, enfin c'est triste hein, de voir que la presse est de moins en moins lue, qu'il y a des librairies qui ferment. C'est une réalité. Mais on doit aussi s'interroger, nous, comme producteurs, hein, sur nos responsabilités propres, même dans les formes de l'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, peut-être rompre avec la tradition des morceaux choisis, enfin des articles découpés, pour revenir à des lectures moins nombreuses, mais intégrales, à des formes aussi moins magistrales, entre guillemets, faussement magistrales souvent, d'intervention et à revenir sur de la lecture suivie, enfin, ce qu'on pouvait faire auparavant. Donc c'est cette idée qu'on est tous liés, enfin, je veux dire, enseignants, libraires, éditeurs et lecteurs, pour maintenir quelque chose qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire l'accès aussi à la culture, aux connaissances, sous la forme du livre. Alors, bien sûr, on nous parle d'Internet. Internet, on n'a absolument rien contre, au contraire, on pense associer les deux, mais il faut aussi maintenir des formes écrites, pour beaucoup de raisons. Et ça nous semble aussi être un argument de ce manifeste, enfin, essayer de reconquérir des publics qui se sont peut-être éloignés de disciplines perçues comme un peu ésotériques, en tout cas non accessibles. En fait, c'est vrai que quand on a fait ces petits formats aussi, on pensait, par exemple, au succès dans les 70, les petites collections. Alors, il y avait les petites collections Maspero, il y avait la petite collection Seuil, il y avait la petite collection Payot, etc. Et il y avait aussi, voilà, il y avait 10-18, toute une série d'éditeurs hein, qui ont diffusé des idées et des grands débats sous cette forme. Donc il faut aussi que l'on se situe par rapport à ces formes-là de communication, de diffusion de l'information. Mais disons qu'il y a deux choses. Il y a la diffusion des travaux, et après il y a la production des travaux. Alors les inquiétudes, elles sont à la fois sur la diffusion des travaux, parce qu'il y a la baisse du lectorat, l'engorgement, l'inflation éditoriales sont vraiment des réalités. Et puis après, il y a aussi les conditions de l'exercice du métier de chercheur qui nous semble être un peu menacé avec, là aussi, l'évaluation, avec ce qu'on appelle la recherche sur contrat et l'imposition donc de sujets, voire de problématiques. Alors, on cite un exemple là, enfin, moi que j'ai à cœur parce que je l'ai vécu directement. On est dans le Limousin, il y a beaucoup de personnes âgées, dépendantes, et donc la région dit à l'université qu'il faut s'occuper de ça. Et puis il y a aussi une entreprise qui fait, vous connaissez les tous, fait des interrupteurs électriques, Le Grand, pour ne pas la citer, et qui développe des solutions domotiques. C'est-à-dire pour les personnes âgées dépendantes, un moyen peut-être d'appeler en cas de difficulté, etc. Simplement, les personnes âgées, ça ne les intéresse pas pour le moment. Elles n'en veulent pas. Elles préfèrent la présence humaine. Et donc, on se retrouve avec une commande qui est comment expliquer la résistance au changement des personnes âgées dépendantes qui n'acceptent pas tout de go les solutions domotiques de cette célèbre entreprise. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, on voit se développer ce type de demande, et cela nous inquiète par rapport à la production de la recherche. Là, c'est ce qu'on appelle de la recherche ancillaire. Ça peut se justifier sur certains points, mais si on nous enjoint finalement systématiquement à répondre à de telles commandes, c'est la recherche publique qui est remise en cause. Et c'est extrêmement gênant, enfin, je veux dire, parce que là, la réponse, on l'a tout de suite. Hein. En tant que sociologue, on a simplement à dire, eh bien, les personnes âgées, ils ont encore du bon sens, même dépendantes, ils n'ont pas perdu complètement la tête, Et ils ont raison de préférer une présence humaine à un interrupteur. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire ? Et il y a une vraie menace hein, en termes de financement de la recherche, en termes d'injonction à se situer sur des créneaux comme ça qui sont en relation avec des commandes et aussi économiques. Et c'est une vision extrêmement dangereuse pour la recherche et qui n'est même pas rationnelle. Parce qu'on s'aperçoit que même l'industrie bénéficie pour l'essentiel de recherches au départ désintéressées. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la relation entre les progrès en mathématiques pures et finalement l'industrie. L'industrie bénéficie de recherches en mathématiques fondamentales qui, au départ, paraissent éloignées des préoccupations du temps, mais voilà. Enfin, on a deux conceptions de la recherche. Une recherche qui est commanditée par l'industrie avec souvent des objectifs à court terme et des objectifs qui ne sont pas toujours précisés, ou alors une recherche qui est indépendante et dont l'industrie pourra aussi se saisir. Donc, ce n'est pas totalement dire voilà, c'est mauvais parce que c'est l'industrie. C'est dire laissons-nous la liberté de la recherche. Et alors, à ce moment-là, voilà, tout le monde en profitera. Et ça aussi, on sent des formes de remise en cause. Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à réunir un public aussi large. Alors, ce n'est pas évident. Hein. 60 personnes, je crois que c'est 65. Ce n'est pas évident parce que personne ne se retrouve totalement dans l'ouvrage. Ça, il ne faut pas... Enfin, si vous le lisez, vous direz peut-être, ça, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Effectivement, 65 personnes peuvent dire la même chose, qui sont co-auteurs. C'est pratiquement... Enfin, c'est le lot commun d'un ouvrage collectif. Voilà. On considère qu'on est d'accord avec 95%, donc on signe. On n'est pas d'accord avec tout. Mais on apporterait nuances, ou on voudrait développer davantage. Mais à un moment donné, on se dit qu'il y a un impératif premier, c'est de diffuser ces travaux. Et qu'importe si on n'est pas d'accord avec tout. En tout cas, ça sera sans doute mieux que la restitution journalistique d'un travail de recherche. À propos du genre, je disais tout à l'heure que... Alors, par exemple, on voit des articles dans la presse locale et nationale sur les hommes qui passent le balai divorcent plus. Voilà. C'était un titre de Sud-Ouest, d'ailleurs. C'est à partir d'une enquête faite par des sociologues norvégiens, tout à fait sérieuse, qui montre effectivement qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du taux de divorce et la répartition assez égalitaire des tâches domestiques. Je dis assez égalitaire, parce que ce n'est pas une répartition égalitaire. Même en Norvège, j'ai vu que, c'est les statistiques, 7 fois sur 10, c'est la femme qui fait le travail. Mais ce n'est pas 9 fois sur 10, donc on dit que c'est une répartition assez égalitaire. Donc, il y a une corrélation, et voilà, quand les sociologues... il y a une dépêche de l'AFP qui reprend le travail du sociologue, et de ces deux sociologues. D'abord, ils oublient, c'est un homme et une femme, ils oublient la femme, c'est simplement le premier nom du sociologue. Ils ont conclu que, voilà, faut pas faire trop de ménage, parce que ça menace le conflit. On revient à des vieilles images, aussi du 19e siècle, sur la querelle du ménage. J'ai retrouvé une vieille iconographie ancienne, une petite pastille où on voit un couple s'affronter à propos du ménage. Enfin bon, à propos, il se joue autre chose. Mais en réalité, le travail sociologique ne montrait pas ça. Enfin, il disait simplement, voilà, il constatait cette corrélation. Puis l'expliquer différemment. Il l'expliquait par le fait que, tout simplement, dans les couples où les tâches domestiques sont mieux réparties qu'en moyenne, aussi le mariage est moins sacralisé que dans les couples où les tâches ménagères sont strictement séparées et plutôt allouées aux femmes quand il s'agit du ménage, de la vaisselle et des soins des enfants et le garage, le jardinage, le bricolage étant, bien sûr, attribué aux hommes. Donc, si vous voulez, voilà, l'idée de cet ouvrage aussi, c'est de s'adresser directement au public le plus large et d'expliquer le sens de nos travaux et pas simplement d'être dépendant de médiation. Alors, qui plus est, cette médiation, elle n'existe pas de moins en moins en France parce que là aussi, la presse écrite est en crise. Une crise considérable. Enfin, je lisais encore, un journal comme Libération est très, très fortement menacé. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
C'est intéressant de débattre toujours.